L'actualité des idées aujourd'hui, guerre d'Algérie, le silence dans les familles. L'historienne Raphaël Branche signe un beau livre enquête sur les mémoires. Papa, qu'as-tu fait en Algérie? C'est son titre, il paraît à la découverte, prix Augustin Thierry au dernier rendez-vous de l'histoire de Blois. Notre invité, professeur à l'université Paris-Nanterre, questionne dans ce livre le silence après avoir longtemps travaillé sur les violences et notamment sur la torture pratiquée par l'armée française pendant la guerre. Ce silence, celui des hommes, sur ce qu'ils ont vécu en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas interrogés? Parce qu'ils n'avaient pas les mots pour le dire? Faut-il forcer la parole à tout prix? Comment faut-il l'accueillir quand elle surgit? Comment réparer aussi les blessures de cette parole tue encore aujourd'hui? Bonjour à vous, Raphaël Branche.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous à distance pour cet échange jusqu'à 13h30. On parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, celui de la guerre d'Algérie. C'est une véritable enquête que vous avez menée. Comment vous avez procédé tout d'abord pour essayer de travailler sur cette question qui par essence est silencieuse, hein, le silence? À partir de quels matériaux avez-vous travaillé?
Alors effectivement, quand on fait de l'histoire, on a besoin de sources, hein, sinon c'est autre chose. Et donc là, il m'a fallu tout simplement, en partie, créer ces sources, les inventer, c'est-à-dire aller dans les familles françaises, les familles dont un des membres avait été soldat appelé en Algérie, et les questionner en fait sur, pas simplement le silence en fait, hein, la question c'était les transmissions, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'on leur a demandé, ce qu'on n'a pas osé leur demander. Donc c'est une enquête qui commence avec ce type de questions-là. Comment s'est passé le retour dans la famille? Comment se sont passés les premiers récits?
Voilà, comme l'indique le titre en fait. Hein,
comme bien sûr, des sources secondaires.
Comme l'indique votre titre, hein, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» qui pourrait être aussi d'ailleurs « Grand-père, qu'as-tu fait en Algérie ?» puisqu'il y a plusieurs générations qui sont réunies dans ce livre enquête au sein des familles de ceux qui ont été faire la guerre d'Algérie ou ont été en Algérie dans ces années-là. Vous écrivez « Le silence est une structure relationnelle » et ça veut dire beaucoup. En quoi ?
En fait, l'idée effectivement clé du livre et l'évolution de ma propre démarche en fait sur cette question, c'était moi je suis une historienne qui travaille avec les témoins et qui a travaillé sur la guerre d'Algérie côté algérien et côté français en interrogeant les acteurs de cette histoire à côté des sources écrites. Et en l'occurrence, je me suis pendant longtemps contentée d'écouter les témoins les plus évidents, ceux qui étaient au contact de l'histoire. Mais pour comprendre ce qu'ils ont été capables de dire à leur famille, j'ai finalement assez rapidement, mais il m'a fallu quand même quelques années, pris conscience du fait qu'il fallait regarder plus large et en fait élargir le champ et regarder non pas simplement les hommes et leur expérience en Algérie, mais l'ensemble des personnes avec lesquelles ils étaient en relation, qui jouent aussi hein, sur ce qu'on est capable de dire. Le silence, en fait, ce n'est pas simplement quelqu'un qui ne parle pas, c'est aussi, parfois, des gens qui n'écoutent pas, des gens qui ne questionnent pas.
Regardez au-delà des hommes, au-delà des appelés, c'est aussi admettre, comme vous le dites, hein, que l'expérience de la guerre marque, au-delà des personnes qui sont envoyées la faire, elle laisse aussi des traces autour, dans les familles.
Oui, bien sûr. En fait, là c'est une autre dimension que vous interrogez là, mais qui est très très nette. C'est-à-dire que quand on a dans une famille une expérience qui n'est pas dite et qui peut être éventuellement douloureuse pour l'un des membres, cette douleur, même si elle est gardée cachée, même si elle n'est pas dite, si elle n'est pas explicitement racontée comme telle, elle peut irradier, elle peut se transmettre par des gestes, des mots, des attitudes, des relations aux autres, au monde, des rapports à l'avenir, à un certain nombre d'éléments, et donc elle peut marquer en fait bien au-delà de la personne qui a été d'abord concernée ou touchée. Et puis plus plus directement, hein, sans aller dans les petits-enfants ou les enfants dont vous parlez, mais plus directement, les frères et les sœurs de ces hommes qui sont partis, les épouses qui étaient parfois les fiancées à l'époque, ils ont et elles ont aussi leur expérience de la guerre, leur expérience de l'absence, leur expérience de la peur, de l'angoisse. Et cette expérience en partie commune, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, puisque c'est tous ces gens dont je viens parler bien souvent appartiennent à la même génération, sont nés à la même époque, partagent les mêmes représentations du monde, ont la même idée de l'Algérie, de la France, de ce que c'est qu'une armée, qu'un soldat. Et donc ces partages, ces choses communes m'ont aussi permis de comprendre pourquoi parfois il n'était pas nécessaire de dire beaucoup pour être compris.
La guerre d'Algérie, on en parle comme ça aujourd'hui, c'est une guerre aussi singulière, hein, jusque dans le nom qu'on lui donne à l'époque, hein, parce qu'elle n'était pas présentée, elle n'était pas appelée comme telle au moment où le conflit commence en 1954. Et ce ne sont pas d'ailleurs des militaires, des combattants qui partent à la guerre, c'est un service militaire en fait, hein.
Oui, ça, je crois que c'est important de le rappeler, y compris vous évoquiez au début le fait que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je crois même que c'est bien au-delà des moins de 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est une évidence, on parle tout le temps de guerre d'Algérie. En fait, on en parle depuis longtemps en France et on en parle, par exemple, dans les manuels scolaires depuis 40 ans. Donc, en fait, pour tout le monde, c'est une guerre d'Algérie et c'est avec ce mot qu'ils regardent et qu'ils appréhendent, nos contemporains, le passé, cette période. Or, effectivement, ça n'était pas une guerre à l'époque. Et donc ça, il faut vraiment prendre la mesure de ce que ça veut dire. D'une part, ça n'était pas une guerre au sens où officiellement on a eu un déni, hein, il n'était pas admis que la France pouvait faire la guerre puisque l'Algérie c'était la France, donc c'était absolument impossible d'admettre une chose pareille. Mais ce déni officiel, il a eu des effets très forts au moment des événements sur les hommes qui les ont vécus et sur leurs familles. Et donc ce déni, il faut vraiment le prendre au sérieux pour ses effets. Et si aujourd'hui on se dit c'était une guerre et on comprend pas comment, par exemple, les proches n'ont pas compris ce qui se passait là-bas, n'ont pas pris la mesure du danger. Mais oui, forcément, parce que pour les proches, pour certains d'entre eux en tout cas, qui ne lisaient pas les journaux, qui n'étaient pas spécialement au courant et à qui le frère ou le fils ne racontait rien, effectivement, ils partaient faire leur service militaire en plus dans un pays qu'on imaginait plutôt agréable.
Oui, parce qu'on n'entre pas en guerre contre les siens. Or, en 54, les Algériens sont considérés comme des citoyens français. Et du coup, si pas de guerre, Raphaël Branche, à leur retour, pas d'anciens combattants non plus. Hein.
Oui, absolument. À leur retour, pas d'anciens combattants. Et ça, c'est une question de reconnaissance officielle. Pour être reconnu comme ancien combattant, il faut que l'État vous admette finalement dans cette catégorie qui donne accès à un certain nombre de droits. Et donc pour atteindre, obtenir cette reconnaissance, les anciens combattants qui le sont quand même d'Algérie vont œuvrer, hein, vont lutter pendant les années 60 pour obtenir cette reconnaissance qui arrive fin 1974. On va donc avoir cette situation a priori absurde d'hommes qui vont être reconnus comme anciens combattants de quelque chose qui n'est pas une guerre et qui est simplement des opérations de maintien de l'ordre, décrit comme opérations de maintien de l'ordre. Mais le fait de ne pas être reconnu comme anciens combattants dès le retour de la guerre, c'est aussi quelque chose que j'ai essayé de travailler au plus près des familles. Parce que, en fait, ces hommes de 20 ans qui partent en Algérie, ils ont tous dans leur famille des hommes qui sont parfois leurs pères, parfois leurs grands-pères, parfois leurs oncles, qui ont été combattants en 14-18. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont aussi eu dans leur famille, bien souvent des pères, combattants en 39-40. Donc cette absence de reconnaissance, cette difficulté à imaginer qu'ils puissent, eux aussi, la plus jeune génération, être des anciens combattants, ça a aussi à voir avec une généalogie masculine dans les familles, une généalogie patriotique, hein, bien sûr, tous les hommes servent la France, et en l'occurrence à eux, on ne reconnaît pas cette qualité, et d'une certaine manière, ils vont mettre du temps à être reconnus par l'État, et en même temps par leurs aînés. Je le travaille et je le montre dans ce livre en voyant comment les associations d'anciens combattants, qui sont des associations nées de la Première Guerre mondiale, sont réticentes à faire rentrer ces jeunes gens dans leur sein, ce qui explique d'ailleurs qu'ils s'organisent entre eux et qu'ils forment des associations parfois à côté.
Des feux mal éteints, Philippe Labro, vous le citez dans votre ouvrage, Raphaël Branche. Il écrit, vous faisiez partie d'une génération d'après-guerre, que vos aînés le veuillent ou non. Vous alliez vivre, travailler, voter après la guerre, la vôtre, vous étiez des anciens combattants. Que vos aînés aient envie de l'oublier ou pas, vous aviez accompli tous les gestes rituels du système policier, depuis le règlement de la circulation routière jusqu'à l'application de la question préalable que l'on appelait délicatement l'exploitation. Certes, vous ne l'aviez pas tous fait, mais vous aviez tous été mêlés à l'affaire et au système, vous aviez vécu ensemble sous le poids de la même affaire et surtout, de bout en bout, la mort était présente, sournoise et glacée, et cela vous donnait comme la connaissance d'une autre dimension jusqu'ici inaccessible. Qui est ce vous, Raphaël Branche ?
En tout cas, cet extrait est magnifique, je trouve, en le réécoutant vraiment. Qui est ce vous ? Là, en l'occurrence, Labro s'adresse à ses camarades d'âge, de génération, des hommes qui avaient 20 ans et qui sont partis donc faire leur service militaire en Algérie et qui en Algérie ont découvert quoi. Et là il le décrit en plusieurs termes, mais finalement il y en a un seul qu'on peut retenir et qui me semble faire précisément la différence entre quoi que ce soit et la guerre. Ils risquent la mort, en fait ils sont confrontés à la mort, ils risquent la mort, ils voient la mort, ils donnent la mort, ils sont autorisés à donner la mort. Autant d'éléments qui très clairement placent leur expérience dans la généalogie des guerres et pas dans celle du service militaire. Donc il s'adresse à ses camarades, en fait, à ce moment-là, Philippe Labro, à la fin des années 60, le journaliste, et il s'adresse en fait bien sûr au-delà, à ses lecteurs, à ses lectrices, à la société française qui sait ou ne sait pas assez, et c'est une des questions que pose son livre bien sûr, c'est que savez-vous, mes contemporains, de notre génération qui a été confrontée à ce que vous n'avez pas voulu voir comme une guerre ? Et quand on regarde le détail de la citation, effectivement, là, il décrit très précisément les spécificités de ce qui s'est passé en Algérie. Mmh. Tout ça est tout à fait, c'est tout à fait passionnant de se rendre compte que ce type de texte, qui est pas du tout confidentiel, hein, existe à cette époque, de même des émissions de télévision, de radio, enfin voilà. Les Français qui voulaient s'intéresser au sujet pouvaient trouver des informations, comme pendant la guerre d'ailleurs.
Et ce qui est passionnant dans cette écriture, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre livre, Raphaël Branche, c'est cette question du qui parle, qui se tait, et de comprendre aussi le contexte dans lequel s'inscrit à la fois ce départ, celui de ces hommes, et surtout le retour, ce qu'ils vont trouver en rentrant, qui sont ceux qui rentrent d'ailleurs, et du coup comment ils vont tenter de se faire une place dans la parole ou le silence au sein de leur famille et au sein de la société française. On vient d'écouter les mots du Philippe Labro, écrivain, on va écouter tout de suite un témoignage recueilli par le Philippe Labro, reporter, pour 5 colonnes à la une. On est le 2 février 1968 et c'est Gérard, 27 ans, ouvrier, marié, 3 enfants, qui se raconte dans les Macs anciens d'Algérie.
Oh, je crois que tout me reste. Il faut alors que ce soit des choses badines, des choses de routine pour que je les oublie et encore.
Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez quitté l'uniforme? Quelle a été votre première action ou réaction?
Je suis resté 15 jours sans absolument rien faire. J'étais content, j'étais rentré à la maison, je revoyais les anciens camarades, je revoyais un peu chez moi, je me promenais, je voulais voir comme c'était à nouveau. D'ailleurs, c'était différent.
Qu'est-ce qui était différent? Est-ce que la France vous semblait différente?
Non, c'est pas elle, c'était moi qui était différent, c'est tout.
Vous croyez dans cette ordre d'idée que ça vous a été utile?
Ah oui, c'est certainement, certainement.
Ah bon?
Certainement. Parce que plongé dans cette ambiance, on est amené à réfléchir, on est amené à se poser un tas de questions. Et puis ne serait-ce que pour prendre l'habitude de réfléchir, je l'ai prise. Si je ne l'avais pas auparavant.
Ça vous a obligé à vous poser des questions sur quoi?
Eh bien, sur la raison de ma présence, par exemple. Si les uns avaient tort, plutôt que les autres.
Quelle France retrouve-t-il en rentrant, Raphaël Branche?
Alors en fait, il faut, pour répondre à votre question, il faut déjà peut-être préciser quelque chose. Là encore, quand on pense à guerre d'Algérie, on a un imaginaire de la guerre qui surgit et qui provoque un certain nombre de fausses images, notamment en ce qui concerne le retour des soldats. On imagine, et on imagine à tort, que comme à la fin de chaque guerre, on démobilise massivement les soldats. Or, puisque l'Algérie n'est pas en guerre, il n'y a absolument aucun moment qu'on peut identifier dans l'histoire française qui est le moment du retour. Donc, je ne peux pas vous répondre la société française au retour. Ça peut être fin 56 comme 1962. Et donc, c'est pendant cette période qui dure longtemps, régulièrement, tous les 3 mois, des hommes rentrent d'Algérie de manière atomisée, individuelle, invisible en fait, socialement, invisible politiquement, mais bien sûr visible pour leurs proches. Ce qui est un élément important pour comprendre le fait qu'il n'y a pas eu de discours qui prennent en charge pour eux le sens à donner à leur expérience. Le discours, ça peut être tout simplement la défaite ou la victoire, hein, à la fin d'une guerre. Là, en l'occurrence, bien souvent, ils rentrent alors que la guerre est encore en cours. Donc, très vite, ils sont invités à oublier l'Algérie, notamment parce qu'il n'y a personne avec qui partager l'Algérie. Quand ils rentrent, ils retrouvent des gens qui font leur travail, qui sont dans leurs occupations habituelles. Là, l'extrait qu'on a entendu, il dit qu'il retrouve ses copains, voilà, et puis les copains vont le réintégrer dans la bande qui fait je ne sais quoi le soir, les balles, etc. Et donc, on va très très vite souhaiter hein, cet amalgame, ce retour à la vie civile.
Mais quand il dit justement, pardon, partis. Qu'il retrouve les anciens camarades, c'est oui. pas les anciens camarades d'Algérie, non. C'est ceux qu'il avait quittés en allant là-bas, hein, du coup.
Mais oui. En fait, le projet, c'est qu'il se remette et qu'on le retrouve, enfin qu'il reprenne sa place. Ça, c'est vraiment le projet des familles, hein, c'est retrouver la place, reprendre finalement, c'est comme si on les avait mis sur pause dans un certain nombre de projets individuels et familiales en particulier. Donc là, il faut qu'ils reprennent la route, hein, le chemin de la famille. Le cas le plus flagrant, et on l'entend d'ailleurs dans ce reportage, c'est très touchant, on entend un bébé derrière. Le cas le plus flagrant, c'est évidemment le couple, hein, le couple qui a attendu le retour de l'homme pour s'officialiser, se marier, se fiancer parfois et assez rapidement avoir un enfant. Donc là, on est en 1968. Je ne sais pas quand Gérard est revenu. Est-ce qu'il est revenu comme les tout premiers en fin 56-57? Est-ce qu'il est revenu en 62? En tout cas, il a un jeune bébé manifestement chez lui. Et donc effectivement, c'est ce désir de rattraper le temps perdu. Beaucoup ont ce sentiment, beaucoup chez les hommes et beaucoup chez les jeunes femmes aussi, de temps perdu. De toute façon, le service militaire, c'est compliqué, c'est du temps qu'on cède et qu'on donne à la nation. Mais en même temps, en Algérie, il est beaucoup plus compliqué que d'habitude, puisque les hommes n'ont pas de permission, ou très peu de permission. Donc en fait, ils partent vraiment pendant un an, on ne les voit plus du tout. Donc on a cette envie-là de les réintégrer.
Voilà, le temps perdu. Or, la parole, vous l'écrivez, ne se déploie qu'autant qu'elle se sait attendue. Et pour qu'une parole se déploie, il faut du temps, il faut aussi cette patience-là. Et dans l'urgence de se faire une place là-dedans, en rentrant dans ce pays qui a quand même évolué, changé, dont la course a continué pendant que eux étaient en Algérie, il est difficile de trouver une oreille tendue, quelqu'un qui ait vraiment l'envie peut-être de comprendre, qui avait envie de savoir, qui avait envie d'entendre.
Alors, je ne sais pas bien répondre à cette question comme ça. Ce qu'on sait, c'est que les Français, globalement, adhèrent, hein, au projet politique, qui est un projet politique qui évolue beaucoup. Hein, au début de la guerre, ils sont plutôt assez rapidement pour des négociations. Et puis, finalement, ils vont suivre l'engagement militaire français. Et puis ensuite, ils vont souhaiter la fin de cette guerre qui n'en finit pas. Donc envie d'entendre, je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment revenir au lien, en fait, au lien individuel. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé dans le livre sur les liens pendant la guerre elle-même. Je crois que si on part simplement du moment où ils rentrent, on rate en fait une des clés de la compréhension de ce qu'ils sont capables de transmettre, puisqu'en fait c'est pendant la guerre elle-même qu'ils construisent eux-mêmes parfois les conditions du silence.
Par leur correspondance. Pas,
par leur correspondance ou par l'absence de correspondance ou par la très faible teneur en informations réelles dans leur correspondance.
C'est François Richoux qui dit, vous le citez, « J'ai essayé de parler, mais vous ne pouvez pas répondre à des questions qui ne sont pas posées et vous ne pouvez pas obliger les gens à vous écouter s'ils n'en ont pas envie. Les gens vous disent, c'est fini, maintenant t'es là, t'es revenu, t'as la chance de revenir. Quasiment, je devais me sentir coupable de vouloir dire ce que j'avais souffert. En plus, on avait des histoires culpabilisantes à raconter, ce que je viens de dire sur les interrogatoires, la torture, les exécutions. Non seulement ça m'a perturbée pendant des années, mais ce n'était pas racontable. »
Cette notion de racontable, elle est très très intéressante parce que effectivement, elle dit bien que ce n'est pas le sujet forcément le problème, c'est la capacité des autres à entendre et donc à accepter que certaines réalités soient l'objet d'un récit. En l'occurrence, là, je pense que ce témoignage qui a été recueilli bien après porte aussi la marque du moment où il est recueilli, c'est-à-dire les années 2000. En l'occurrence, au retour de la guerre, les soldats n'ont sans doute pas très envie de parler des choses les pires auxquelles ils ont assisté. Mais plus largement, il leur est difficile de raconter tout ce qu'ils ont découvert en Algérie, et notamment sur eux-mêmes. Dans le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure de Gérard, il dit « j'étais différent au retour » et ensuite il précise « en fait j'étais différent en Algérie puisque je suis devenu différent là-bas ». Et ça, les proches le constatent en fait, le constatent bien souvent. Les récits sont vraiment tout à fait massif à dire « il a changé là-bas ». Alors, ça peut être « il a mûri », ça peut être des changements positifs, et ça peut être aussi un sentiment d'étrangeté qu'on ressent en retour vis-à-vis d'un proche. Alors, dans ces cas-là, on n'a pas forcément envie de creuser, de savoir pourquoi.
Est-ce que vous diriez que le désir d'entendre, d'écouter, va peut-être sauter une génération ? Est-ce que les petits-enfants étaient plus demandeurs, les enfants ou les petits-enfants étaient plus demandeurs que les conjoints, les amis, les familles qui étaient restées en France à ce moment-là? Parce que l'école va aussi libérer une envie d'histoire vivante, d'une envie de mettre des mots sur du vécu et des trajectoires.
Alors, je pense qu'en fait, il y a des choses classiques qui sont que, effectivement, dans nos sociétés occidentales où les familles sont réduites aux parents et aux enfants, et où les grands-parents ne cohabitent pas avec les petits-enfants, donc ne participent pas à leur éducation, et donc ont une relation qui n'est pas entremêlée de cette question d'apprendre des normes, de transmettre, etc., aussi quotidiennement que dans le cadre d'une famille, justement. Il est tout à fait connu et repéré par les chercheurs que le lien de transmission de ce type d'expérience se fait plus facilement de la génération des grands-parents aux petits-enfants que des parents aux enfants. Donc, sans étonnement, on retrouve ça pour la guerre d'Algérie. Mais ceci dit, cette histoire purement générationnelle, il me semble qu'il faut la lire aussi autrement. Il faut la lire en fonction des contextes sociaux. Et c'est ce que vous avez suggéré avec l'école. C'est-à-dire qu'il faut aussi identifier ce qui est à la disposition des enfants et des petits-enfants pour tout simplement s'intéresser à l'histoire de l'homme de leur famille qui a été en Algérie, tout simplement se poser des questions. Si on n'a pas idée que cette histoire a eu lieu, et si on n'a dessus aucune représentation, on n'a pas forcément envie de questionner au-delà du récit qui est livré par l'ancien combattant, par exemple. Or, de fait, la société française change beaucoup de ce point de vue-là, les recherches historiques changent beaucoup, les capacités des gens à trouver des informations facilement grâce à Internet changent radicalement. Cette capacité de pouvoir finalement se poser des questions à soi quand on est enfant, petit enfant. Après, la capacité à aller interroger l'homme de la famille, c'est encore autre chose. Et ça renvoie bien davantage à ce que c'est qu'une relation père-enfant dans notre société, ce que c'est qu'une relation grand-père-petits-enfants. Donc j'essaye aussi de raconter cette relation père-enfant et son évolution, et de voir à quel point son évolution a été en l'occurrence un facteur qui a favorisé la capacité à échanger dans les familles à partir des années 90-2000.
Le silence dans les familles et la mémoire, auteur de Papa que tu fais en Algérie, à la découverte, notre invité jusqu'à 13h30 est l'historienne Raphaël Branche. France Culture, il est 13h19.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
La place de l'école dans la transmission, elle va être essentielle dans cette manière qu'elle aura peut-être aussi de piquer la curiosité et de raconter cette histoire autrement. Mais vous évoquez aussi, Raphaël Branche, la place des médias, on pourrait aussi dire du cinéma. Et on va écouter, pour en parler, un extrait tout de suite du documentaire « La guerre sans nom » signé Bertrand Tavernier et Patrick Rothman.
Vous parlez souvent de votre guerre d'Algérie ?
Oh, très rarement. Quelquefois mes gosses. Mais pour eux, je veux dire, 30 ans en arrière, c'est un peu comme la guerre de 14, quoi.
Pas très. À l'occasion de camarades que je revois, sinon non.
J'ai découvert il y a une semaine, en cherchant de vieilles photos, qu'avec mon fils qui a 30 ans, nous n'avons jamais parlé de guerre d'Algérie.
Mes enfants, par exemple, m'interrogent parfois dessus. C'est vrai que j'en parle très très peu. Et que je pense qu'à l'occasion de ce film, ça me permettra d'y compris d'en parler avec eux.
Et en parler, c'est douloureux, dans le sens, parce qu'on a vécu des événements, et c'est difficile parce que personne n'a envie de l'écouter.
Pourquoi raconter à ses copains, à sa famille, ce qu'on a vécu comme ça là-bas? C'est toujours triste. Mais oui, souvenirs, on les laisse de côté.
J'ai eu toute une longue période d'amnésie, où je pense que je n'ai plus jamais pensé, je n'ai jamais voulu penser à la guerre d'Algérie.
Voilà, la guerre sans nom, le documentaire aurait aussi pu s'appeler la guerre sans mots. Il était difficile aussi à l'époque et pour cause, vu ce qui s'est passé, de raconter ce qui s'y était déroulé. Ce film, il a marqué un tournant, Raphaël Branche, dans ce récit de cette guerre sans nom.
Alors ce film, il accompagne en fait un moment qui est un moment tournant dans la mémoire de la guerre d'Algérie en France, à plein d'égards, sur plein de plans, les années 91-92, qui correspondent aussi au début de la guerre civile en Algérie, hein, de la répression terrible du début des années 90, avec les maquis islamistes. Donc cet écho de l'Algérie, de sa violence en France, plus toute une série d'événements dans le champ mémoriel, voilà, il fait qu'il y a un moment, la 91-92, et la guerre sans nom s'inscrit complètement dans ce moment pour ce qui concerne la mémoire des appelés. Donc oui, c'est un film long, très long, qui dure 4 heures, qui est sorti au cinéma, et qui a, pour la première fois, fait ce choix de leur donner si longuement la parole, en travaillant, et c'est ce qui m'a frappé en le regardant à nouveau, c'est effectivement cette conscience qu'a Bertrand Tavernier du silence, enfin ou du fait que ces hommes ont très peu parlé. Alors là, il propose quelques explications dans le début que vous avez projeté. Moi, j'en retiens une qui est la première, quand l'homme dit 30 ans en arrière pour mes enfants, c'est comme la guerre de 14. Et ça me frappe beaucoup parce qu'en fait, ça induit peut-être une idée fausse, à savoir qu'en fait, le rapport au silence n'est pas une fonction linéaire du temps. En fait, on voit qu'en 92, ils disent et ils s'expriment en disant « je n'en ai jamais parlé, j'en ai rarement parlé ». Je pense qu'en 2010, ils n'auraient pas dit la même chose, alors qu'on est 20 ans plus tard. Ils auraient dit bien davantage « on m'interroge, mes petits-enfants me posent la question ». Notamment les petits-enfants qui sont en troisième et qui ont la guerre d'Algérie au programme. Donc en fait, le rapport à la capacité à parler a à voir vraiment avec ce qu'une société et ce que les familles sont prêtes à entendre. En 92, c'était le début, ça frémissait. Il va falloir encore attendre 10 ans pour que vraiment quelque chose d'autre arrive.
Autour de la Seconde Guerre mondiale, la question qui revient souvent au grand-père, c'était pendant la guerre, tu étais quoi, collabo ou résistant? Avec cette transmission qui se fait de plus en plus à l'école ou par les livres et par les médias, et la guerre d'Algérie qui trouve enfin ce nom de guerre en 99, c'est la question de la torture qui, des années après, surgit, alors que la lumière se fait donc par les livres, par le cinéma ou encore par l'école. Vous citez, vous, dans votre ouvrage, Raphaël Branche, ce courriel que vous avez reçu, celui d'une fille qui a commencé à pouvoir en parler 23 ans après la mort de son père, à se saisir notamment de votre livre sur la torture et les violences. Et vous la citez. « Ce matin, à 5 heures, j'ai enfin commencé votre livre sur la torture et l'armée en Algérie. Et j'ai formulé cette phrase pour la première fois. Mon père était donc un criminel de guerre. C'était un immense vertige, une douleur infinie. L'écrire, et plus encore le penser, est vraiment insoutenable. Surtout quand je sais la dévastation que cette guerre a été pour lui et pour nous, sa famille. » La GIGN, la corvée de bois sont des compagnons de mon enfance, des mots, des gestes, des bruits, des photos ancrés dans notre histoire familiale. Cela transpirait sans cesse, sans être jamais expliqué, comme tout bon secret de famille. Après la mort des pères, c'est une autre parole qui se libère aussi.
Ah oui, le livre continue effectivement, le livre accompagne en fait ce mouvement démographique qui fait que ces hommes meurent progressivement, bien sûr. Et effectivement, il m'est apparu cette chose, à savoir que le décès des pères, alors qu'il n'y a pas eu d'échange, a pu donner lieu pour certains enfants à une forme de libération, une forme d'acceptation pour eux qu'ils pouvaient aller chercher de ce côté, qu'ils ne les avaient pas interpellés plus tôt ou qu'ils n'avaient pas osé affrontés quand leur père était vivant. Et là, je parle effectivement des enfants, puisque ce sont vraiment des questions que moi j'ai traitées en regardant la manière dont certains enfants ont réussi à essayer de se documenter et à se fabriquer un point de vue finalement sur et l'expérience des pères et les effets de l'expérience sur eux, puisqu'en tant qu'enfants, ils ont été aux premières loges finalement des effets, hein, puisque là on a ce récit de violence, d'homme blessé, mais qui a été un père manifestement qui n'a pas cantonné cette souffrance dans son fort intérieur, hein, ça s'est vu dans sa famille, et donc les enfants ont cette capacité à relier les deux choses, l'expérience de l'enfant vis-à-vis de cet homme père, et puis l'expérience algérienne sur laquelle il se documente. Et parfois, c'est plus simple quand les pères ne sont plus là.
Voilà, il y avait parfois des grands silences, des paroles qui étaient tues ou qui n'étaient pas entendues, et puis parfois des mots, et vous le racontez aussi, qui s'échappent et qui révèlent un trauma, un traumatisme, la nuit, les cauchemars, les colères des pères dans toutes les langues. On écoute le témoignage de Bernard Zic, psychiatre et ancien d'Algérie, extrait de « Paroles de tortionnaire » de Jean-Charles Degnaud.
Certains n'en ont pas parlé pendant 40 ans, il est possible qu'eux-mêmes n'y prêtaient plus attention, et que c'était resté au niveau inconscient. Comme c'est des faits, quelquefois, donc ils n'ont jamais parlé, il n'y a pratiquement pas de mots pour les décrire. Et si ça reste comme ça, en clos, ça se répercute dans les relations amoureuses, conjugales, et chez les enfants, nous retrouvons des enfants qui, à la deuxième génération, quand il s'agit de pères ou de mères éventuellement, qui ont été traumatisés psychiquement gravement et qui n'en ont jamais parlé, qui n'ont pas pu arriver à verbaliser, remettre cela en place personnellement, psychologiquement et historiquement, eh bien, ça a des effets destructifs. L'angoisse, l'instabilité, la brutalité, la mise en cause du rapport à la loi et donc l'ouverture sur la délinquance, par exemple.
Voilà, le poids des silences dans les familles plusieurs générations après, on l'entend à travers ce témoignage de Bernard Zic. Pour conclure, Raphaël Branche, en travaillant sur ces silences et sur cette mémoire, vous n'avez peut-être pas eu des surprises factuelles, mais en tout cas, j'imagine aussi été étonné de la manière dont la parole a pu se transmettre et voir ce qu'il en restait au sein des familles.
En tout cas, je suis toujours très touchée du fait que cette réalité reste si sensible pour tant d'entre nous, dans les familles, mais qu'elle est aussi une question sociale et politique et qu'en tant que telle, elle a encore besoin d'être analysée, traitée et écoutée.
Enquête sur un silence familial. Papa, qu'as-tu fait en Algérie? C'est le titre de ce livre que vous signez aux éditions La Découverte et qui est paru à la rentrée, livre pour lequel vous avez reçu le prix Augustin Thierry au dernier rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci beaucoup à vous, Raphaël Branche, d'avoir été avec nous. Merci.
Merci à vous.
Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission à distance, confinée, mais bien présent à mes côtés et à vos côtés, auditeurs de France Culture. C'est-à-dire à Jean Bulot, avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Auriane Delacroix, avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. Merci beaucoup à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'est Félicie Faugère avec Nasser Moussaoui à la technique. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous sur France Culture.